Vous écoutez
RMC. RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Génération After, merci d'être avec nous sur RMC, 20h15, ce lundi soir, avec Fred Armel, Johan Crochet, Julien Laurence et Paulo Breitner. On parle bien sûr, on se projette sur la Coupe du Monde dans 55 jours, le mondial qui débutera, ce sera le 20 novembre. Mais d'abord, on parle des matchs qui nous intéressent du week-end et ceux qui vont se jouer ce soir, notamment cette Angleterre-Allemagne. Paulo, d'ailleurs, revenons à vendredi soir, hein, première défaite de la Nationalmannschaft version Hansi Flick, c'était contre la Hongrie. Bon, l'épouvantail, hein, leader de groupe 3, qui plus est à domicile, hein, pour les Allemands.
Oui, enfin, je trouve qu'on met toujours un peu de côté la performance de la Hongrie dans ce groupe parce qu'elle a embêté tout le monde. Donc, un petit peu dans la lignée de ce qui s'est passé à l'Euro 2021. Évidemment, mais c'est intéressant parce que quand tu vois la presse, le journal Kicker fait 10 pages sur la sélection allemande et en gros, t'as l'impression que c'est devenu une équipe avec des amateurs. Donc avant la défaite contre la Hongrie, on nous parlait qu'ils pouvaient aller chercher le titre mondial au Qatar. Et là, d'un seul coup, cette défaite fait que plus rien ne marche, que le bloc Bayern ne marche pas, etc. Non, la Nationalmannschaft a un problème, c'est qu'elle n'a pas de grand buteur. Elle a toujours des soucis, mais depuis des années, contre les équipes qui jouent en bloc bas. Et c'était encore une fois le cas de la Hongrie. Mais je vous rappelle, il y a quelques temps, la défaite contre la Macédoine du Nord, en qualif pour l'Euro aussi, où ils avaient quasiment pas vu le ballon, les Macédoniens. Mais ils savaient faire des contres et ça avait fonctionné. Mais on oublie aussi les points positifs de ce groupe, c'est qu'on s'est trouvé un véritable leader en défense centrale, c'est Rudiger, tout le monde l'a oublié. C'est-à-dire ça fait quelques mois qu'il est là, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être que Juju peut me renseigner comment c'est passé en Angleterre, mais il est transformé. C'est le vrai boss de la défense, alors que depuis des années, on nous explique qu'il n'y a pas de patron en défense centrale en Allemagne. Donc il y a des choses qui ne vont pas à quelques mois, évidemment, du mondial, mais je trouve qu'on passe du chaud. Enfin, c'est complètement fou. On passe de 40 degrés à l'ombre à moins 30, quoi. C'est à chaque fois. Et je pense que c'est un peu le problème de l'Allemagne qui n'a pas de certitude dans le sens où elle sort de deux tournois internationaux, l'Euro 2021, évidemment, et la Coupe du Monde 2010 ratée. Et qu'on a un groupe qui est compliqué, où il y aura un match piège contre le Japon pour commencer. Maintenant, si l'Allemagne passe le Japon assez tranquillement, entre guillemets, la pression sera mise sur l'Espagne. Et puis, on pourrait d'ailleurs très bien imaginer un 0-0 bien pourri des familles pour régler ça et que tout le monde se qualifie. Donc, je vois pas pourquoi être plus noir que noir dans la presse allemande par rapport à la sélection, comme, mais c'est les mêmes qui, il y a encore un mois, disaient que l'Allemagne pourrait être championne du monde. Donc, je reste.
Oui, mais est-ce qu'ils avaient raison il y a un mois? C'est ça la question, Paulo.
Mais je sais pas, on verra à la Coupe du Monde 2022. Enfin, je veux dire, on a l'un des meilleurs gardiens du monde. Son remplaçant, c'est Ter Stegen. Il y a des défenseurs centraux qui jouent dans les meilleurs clubs du monde. Il y a un milieu de terrain, tu dois choisir entre Gundogan et Goretzka à côté de Kimmich. T'as le bloc Bayern qui est là, Sané, Müller, Gnabry, qui j'ai oublié, t'as Timo Werner qui est pas terrible, qui j'ai oublié, Moussiala, le jeune qui est là, qui peut faire. Enfin, j'arrive pas à comprendre. C'est une très très belle sélection. C'est peut-être pas la plus grande équipe qu'on ait vue, mais tout le monde oublie aussi le 5-2 qu'ils ont infligé en groupe à l'Italie. L'Italie, c'est un symbole pour l'Allemagne. C'est la bête noire de l'Allemagne, historiquement parlant. L'Angleterre est finaliste de l'Euro. Il y a eu 1-1 chez nous. Alors, de mémoire, l'Allemagne avait dominé le match aller. Donc, il y a le 1-1 en Italie était très équilibré avec chacun sa mi-temps, etc. Donc, perdre contre la Hongrie 1-0, évidemment que ça fait bizarre parce que c'est la Hongrie et c'est pas les fameuses grandes nations mondiales. Mais quand je vois ce que produit la Hongrie dans son schéma de jeu qui a maîtrisé à la perfection, si ça peut arriver, moi c'est pas bien grave. Le problème c'est qu'on avait la possibilité, les gens ont pensé que si on gagnait la Hongrie, on était premier du groupe et donc potentiellement on pouvait se retrouver dans le Final Four. Il se fait que la Ligue des Nations, les trois éditions, ne réussissent pas à l'Allemagne. Donc je veux pas embellir ou je veux pas noircir le tableau, mais moi ça me fait ni chaud ni froid en fait. Ce qui se passe.
T'as pas l'impression que le destin de la Nationalmannschaft tient au destin du Bayern Munich? En clair, quand l'Allemagne va pas bien, le Bayern va pas bien.
Et c'est dans l'autre sens, d'ailleurs. Ça fait 40 ans, de toute façon, que c'est comme ça. Donc, c'est pas nouveau. Maintenant, c'est vrai que la période actuelle fait que le Bayern n'est pas non plus étincelant. Maintenant, on verra ce qui va se passer après la trêve internationale. Ce que je vois, c'est que pour moi, le problème, c'est le vrai neuf à tel point. On a parlé avec Fred ce week-end et avec Jérémy Ménez. C'est que dans la presse allemande, on se demande s'il faut pas aller chercher Niklas Füllkrug, qui évidemment vous ne connaissez pas.
Je connaissais pas. Quand tu m'en as parlé dimanche à l'antenne.
Qui est juste un attaquant de Verdun supporter de Brême, qui a marqué 5 buts en cette rencontre et qui a parlé et qui a passé une partie de sa carrière en seconde division, tout simplement parce qu'il mesure 1m90. Donc on se dit que ça pourrait être utile contre les équipes qui ont des blocs bas. Mais ce problème d'efficacité et de comment jouer contre les équipes qui sont à 30 mètres, qui jouent pendant 90 minutes, 30 mètres, n'est pas nouveau. C'était déjà le cas lors de la Coupe du Monde 2018. Ça a été la même chose contre la Hongrie lors de l'Euro 2021. Donc voilà, mais j'ai pas envie de noircir le tableau plus qu'il n'est.
Ce qui est intéressant, c'est que tu parles de l'Allemagne. L'Espagne a un peu le même problème. Absence de numéro 9 efficace. Et pareil, en Espagne, il y a un débat concernant Iago Aspas, meilleur buteur espagnol de la Liga, Fredo, qui n'est pas appelé.
Ben oui, parce que on a vu ce qui s'est encore passé ce week-end face à la Suisse, hein, défaite de 1 à domicile à Saragosse, en sachant que l'Espagne était idéalement placée pour se qualifier pour le Final Four, puisque l'Espagne en cas de victoire
aurait eu un point d'avance contre
n'avait besoin que d'un nul à Braga demain soir au Portugal pour terminer premier du groupe, alors que là l'Espagne est obligée de gagner, donc c'est compliqué. Le problème, c'est qu'il y a une star dans cette équipe. Il s'appelle Luis Enrique Martinez, c'est l'entraîneur. Et c'est lui qui dirige tout. Il y a un type qui s'appelle Iago Aspas, qui est vraiment en plus à vivre au quotidien. C'est facile, il a un comportement exemplaire.
6 matchs, 5 buts les gars cette saison.
Mais bien sûr, et puis il est excellent. Il est excellent, Iago Aspas, sur Celta Vigo. La question lui est posée lors de l'annonce de la liste. Il dit, Iago Aspas ne me convient pas, puisqu'au Celta de Vigo, tout le monde joue pour Iago Aspas, c'est normal qu'il marque.
Est-ce qu'il s'entend ?
Bah ouais, t'as un mec qui marque, qui donne le ballon, enfin un truc à con. Et lui ensuite dit, moi, je veux un joueur qui joue pour tout le monde et que tout le monde joue pour tout le monde. Donc en gros, c'est le profil de Iago Aspas. Là, il a commencé le match contre la Suisse avec Marco Asensio en faux numéro 9. Il n'a jamais joué en sélection en faux numéro 9. Finalement, il a fait une passe décisive, mais pas en tant que faux numéro 9. Bref. Il y a un type qui s'appelle Morata. Il n'a pas joué. Il n'aime pas trop. Il n'aime pas trop Luis Enrique. Sauf que Morata, et Dieu sait si je suis pas un fan de Morata, Morata, il peut te marquer un but quand même. Tu vois, enfin, c'est un buteur, c'est un vrai numéro 9, c'est quelqu'un de référence, etc. La question qu'on se pose en Espagne, c'est comment est-ce possible à 2 mois d'une Coupe du Monde d'avoir aussi peu de certitude. Quand, par exemple, Luis Enrique, lors du match contre la Suisse, fait débuter 5 joueurs sur 11 qui ne sont que de petits remplaçants dans leur club respectif. Je dis petits, c'est-à-dire ce sont 5 joueurs qui ont disputé moins de 50% des minutes possibles en club. C'est quand même un peu bizarre de pas faire confiance à alors t'as un Iago Aspas qui joue toutes les minutes, qui claque quasiment un but par match, il joue pas, et t'as Asensio, j'aime beaucoup Asensio, qui joue dans un rôle qui est pas le sien alors qu'il joue quasiment pas au Real. Lui c'est moins de 50%, il joue 20%. Donc il y a des incompréhensions que Luis Enrique n'est pas capable d'expliquer, qui semble convenir au président de la fédération, Luis Rubiales, qui soutient Luis Enrique. Luis Enrique, il quitte le mondial après 3 défaites, il sera encore sélectionneur au mois de janvier. C'est-à-dire qu'il y a une obsession avec Luis Enrique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Luis Enrique avait prévu pour l'Euro, en gros, un quart de finale, tout le monde était content, parce que le rendez-vous, c'était ce mondial-ci. Il fallait emmener une nouvelle génération, les Pedri, etc., vers le mondial, en faisant un euro, on va dire, de transition. Cet euro, en fait, qui a été globalement assez mauvais techniquement et physiquement, ça a été un mauvais euro. L'Espagne s'est retrouvée en demi-finale, au-delà des espérances. Beaucoup de gens ont cru que l'Espagne était arrivée, et on s'aperçoit finalement que cet euro, plus ou moins réussi, a perturbé, en fait, la progression de cette équipe qui n'est. Elle était trop belle au bal anglais et aujourd'hui on se rend compte
que ça pouvait suffire.
Ouais, elle est mal habillée aujourd'hui et j'insiste là-dessus. Et c'est terrible de le dire quand on a connu les Iniesta, les Xavi, tous ces joueurs, Mavi, les Ramos, etc. C'est que il n'y a pas de grands talents dans cette équipe. Je termine. Tu regardes le milieu de terrain qui est le milieu du Barça. Tu as un vieux talent comme Busquets qui joue ses derniers matchs et tu as 2 jeunes talents qui seront peut-être un jour candidats au Ballon d'Or. Mais ni Gavi ni Pedri, aujourd'hui, ne sont de grandes stars. Enfin, ils sont merveilleux, mais ils peuvent pas tenir une équipe à eux-mêmes. Et il y avait une réflexion en Espagne qui était faite par beaucoup de gens, en disant, mais les gens qui s'interrogent sur le niveau de l'Espagne, il y a 0 nommé au Ballon d'Or, qui est la cité espagnole cette saison. Et ça veut dire quelque chose.
Bon, est-ce bien utile? En tout cas, à tel point qu'on fait appel à... Enfin, il y a un débat en Espagne, un mouvement qui s'est lancé pour réclamer le retour de Sergio Ramos en sélection.
Celui qui n'a jamais voulu partir. C'est pas Ramos qui a quitté la sélection. C'est Luis Enrique qui l'a écarté. Ça paraissait justifié la saison dernière au PSG, tout le temps blessé. Cette année, j'ai l'impression qu'il joue tous les matchs. J'ai l'impression qu'il n'est pas si mauvais. Donc naturellement, quand on voit le désastre de la défense espagnole avec Eric Garcia, qui n'est pas un très bon défenseur, on le voit au Barça, Pau Torres, qui a eu un match horrible contre la Suisse, il y a Aymeric Laporte, sauf qu'Aymeric Laporte, il est blessé. Je sais pas si t'as des nouvelles, cher Julien, quand est-ce qu'il va revenir, mais en Espagne, on se demande s'il sera en forme pour le mondial. En tout cas, dans quel état il va arriver au mondial.
Julien.
Non, je crois qu'il devrait reprendre l'entraînement après la trêve internationale. Là.
En tout cas, mais ça fait un moment qu'il a arrêté quand même là.
Ouais, depuis fin août, je crois.
Donc, dans quel état ? Enfin, tu vois, il y a plus grande. Et puis donc la question logiquement se pose. Ramos veut revenir en sélection. Ramos joue au PSG. Il est pas mauvais. Bah, ça serait peut-être bien de récupérer un joueur comme ça.
On est d'accord.
Bah non, pourquoi ? Parce que c'est un leader. Parce que c'est une star. Et Luis Enrique, il veut être la seule star et le seul leader.
Voilà. Voilà pour l'Espagne. Dans un instant, on va parler de l'Italie avec Johan, bien sûr, grand absent du mondial, mais qui bosse bien sous Mancini. Johan va le dire pourquoi dans un instant également. On parlera de l'hécatombe de blessés qui ne touche pas seulement la France, toutes vos sélections du mois du mondial. C'est marrant. Souvent l'impression que c'est inhérent aux grandes nations qui ont une vraie ambition sur une Coupe du Monde. Il y a souvent des doutes légitimes. Plus ou moins des inquiétudes, plus on approche d'un mondial. On en parle dans un instant avec vous, Paulo Breitner, Julien Laurence, Johan Crochet et Fred Armel. Vous écoutez Génération After, spécial drôle de dame sur RMC, 20h27. À tout de suite.